Bienvenue à la soirée radiophonique d'Amnet Radio. Comme chaque semaine, nous commençons par l'interview d'acteurs de l'art d'aujourd'hui dans notre émission d'Amnet Art Contemporain. En milieu de soirée, vous retrouvez nos confidences et lectures érotiques dans l'émission Eros d'Amnet. Pour conclure cette soirée, découvrez toutes sortes de sons et laissez-vous aller sur plus d'une heure de musique intégrale. Lors de l'émission d'Amnet, création sonore et musicale, dès à présent, retrouvez les infos, les musiques et les travaux des artistes en vous connectant sur http://damienbourdeau.fr. Bourdeau s'écrit D-A-U-D. Art contemporain. Retrouvez chaque semaine un ou une artiste, une curatrice ou un curateur, une asso, un ou une critique de l'art contemporain qui vont nous parler de leur réalisation, de leur parcours, de leurs conditions de travail et de leur vie. Ce soir, nous accueillons...
Bonjour, je m'appelle Annick Sterkendries, je suis artiste plasticienne. C'est peut-être un bien grand mot, mais en tous les cas, c'est parce que j'ai décidé de vivre de mes activités artistiques. Donc, en réalité, c'est d'essayer d'exprimer en tous les cas ses émotions, son ressenti, sa manière de voir les choses avec différents médiums artistiques. Pour ma part, c'est la photo, la vidéo, les installations surtout, la gravure... le dessin très peu, donc voilà, donc c'est défini un petit peu mon champ d'action. Puis j'ai également créé il y a peu de temps avec une bande d'amis une association qui s'appelle Le Temps d'un Moment et qui est en fait un lieu artistique en campagne qui accueille un artiste en résidence, qui fait des expositions d'art contemporain et qui essaye de tourner justement toutes ces expositions vers le grand public. Voilà, donc en gros, c'est un petit peu mon champ d'action. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce que les gens ont vraiment peur de l'art et en tous les cas, ici en campagne, les gens ont du mal à passer la porte de la galerie. Et donc, on essaye d'aller vers ce public en essayant de passer par les scolaires. Donc, lorsque les scolaires viennent visiter les expositions, je fais des commentaires, je fais une médiation artistique et ensuite, régulièrement, ils reviennent avec leurs parents par la main. Et donc, à ce moment-là, je les accueille et je leur explique l'exposition. Parce qu'en fait, il s'est avéré des expériences un peu surprenantes, qu'en fait, les enfants tiraient leurs parents par la main, et puis les parents arrivaient grognons dans l'exposition. C'est tout juste s'ils ne se fâchaient pas sur leur enfant parce qu'ils les avaient emmenés dans un lieu pareil. Et si je n'avais pas été là à ce moment-là pour essayer, en fait, de faire comprendre aux gens l'exposition qu'il y avait là, et puis leur faire comprendre que c'était pour eux aussi, eh bien l'enfant elle est rentrée chez lui encore plus frustrée qu'avant et en se disant mince, j'ai aimé quelque chose que papa et maman n'aiment pas et il se serait peut-être senti un peu déloyal vis-à-vis d'eux. Alors que là, j'essaye toujours justement encore plus motivée par ce petit gamin ou cette petite fille qui est à côté qui me regarde avec des grands yeux en disant au secours, j'essaye encore plus de me mettre à la portée de tout le monde, en tous les cas d'essayer de faire comprendre ce qui est au mur ou ce qu'il y a comme installation à tous. Et du coup, souvent, les gens, ils repartent quand même contents et ils reviennent. Comme quoi, je pense que, voilà, que vraiment, il y a moyen de démocratiser l'art, entre guillemets. L'art n'appartient pas à une élite et c'est un petit peu ça que j'essaye de faire comprendre à tous.
Make me listen.
Qu'est-ce qui m'a fait devenir artiste? Eh bien, en fait, j'ai toujours voulu être artiste depuis que j'étais toute petite. Et c'était très amusant parce qu'en fait, dans la famille, il n'y avait pas d'artiste, bien que j'avais un parrain qui dessinait bien et qui peignait beaucoup. Des pigeons. Moi, je suis belge et en fait, le pigeon en Belgique, c'est quelque chose. Il y a énormément de colombophiles. Et lui était colombophile. Et petite fille, c'est vrai que moi, je le regardais peindre et dessiner ses pigeons comme ça sur des morceaux de journaux lorsqu'il regardait les nouvelles et tout. Et vraiment, je trouvais ça impressionnant. J'avais également une tante qui était pianiste. Mais pour le reste, je suis vraiment issu du milieu rural. Enfin, mon grand-père était boucher, mon autre grand-père était fermier. Et moi, j'étais vraiment d'une hypersensibilité. Et c'est vrai que bon, je me sentais. J'avais l'impression d'être en décalage, quoi, d'être en décalage par rapport à mon frère, ma sœur, mes parents, mais voilà. Et les seules personnes que je regardais, avec qui je communiquais pas spécialement beaucoup, mais que je regardais avec beaucoup d'admiration, c'était cette tante et puis donc ce parrain qui dessinait. Voilà, et puis donc très vite, j'ai dit à mes parents que je voulais faire des études de dessin, que je voulais rentrer à l'Académie des Beaux-Arts. Et naturellement, pour eux, c'était impossible. Parce que pour eux, rentrer aux Beaux-Arts, c'était rentrer dans la prostitution. Donc c'était vraiment impossible. Donc ils m'ont dit, tu feras ce que tu voudras quand tu seras mariée, mais donc tu ne seras pas artiste avant ça. Donc voilà, donc je me suis mariée à 19 ans et 2 mois après, je m'inscrivais à l'Académie des Beaux-Arts. Voilà, donc 2 ans après, je divorçais. Mais ceci dit, je pense que quand on veut être artiste, c'est réellement une volonté. Moi, je suis vraiment surprise de voir que tous ces amis avec qui j'étais aux Beaux-Arts et que je trouvais beaucoup plus doués que moi, eh bien, n'ont rien fait. C'est vraiment bizarre, ils ne sont pas devenus artistes. Et moi, malgré ma vie mouvementée, j'ai une vie affective un peu tumultueuse, et bien malgré tout, je suis artiste et ça a vraiment été une lutte, je pense, une lutte toute ma vie pour ça, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de mon entourage. Puis maintenant encore, il faut croire que je le cherche, je viens m'installer à Riaillé où j'essaye de monter ce centre d'art. Mais voilà, je sais pas, j'ai peut-être des choses à prouver justement vis-à-vis de ce milieu rural. Est-ce que c'est ça qui m'a donné la force justement de vouloir leur dire « Vous ne m'avez pas fait confiance, vous ne vouliez pas que je sois artiste, maintenant je suis artiste et puis regardez, je ne vous ai jamais rien demandé, je vis de mon art, vive de mon art entre guillemets parce que c'est hyper dur, mais en attendant c'est vraiment une volonté de vie ». Et une autre petite anecdote qui était assez amusante, c'est que quand j'ai commencé à pouvoir glaner de ci de là des images d'artistes et me renseigner sur la vie de certains artistes, et quand je regardais leur date de naissance et que je voyais que c'était par exemple la date de naissance de mon grand-père, et je me disais comment se fait-il que lui, il ne connaisse pas? Comment se fait-il qu'ils ne connaissent pas Picasso? Comment se fait-il qu'ils ne connaissent pas toute cette histoire de l'art? Pourquoi est-ce que moi, je vais faire attention aux plantes qui va planter dans son champ? Pourquoi moi, je vais m'intéresser aux courses cyclistes qu'ils regardent à la télévision? Pourquoi je vais leur poser plein de questions? Parce qu'il y a tout un amour là-dedans. Et pourquoi eux, d'emblée, ils se sont dit que cette histoire de l'art, ça ne les concernait pas? Et peut-être que inconsciemment, c'est ça qui m'a motivée pendant toute ma vie, au-delà de la vie familiale et tout ça, parce que ça a été hyper dur au niveau de mes relations, de mère, de femme, c'est pas facile d'être femme et être artiste. Donc j'ai divorcé plusieurs fois, j'ai des enfants de pères différents, et j'ai une vie très riche. Mais c'est vrai que le fait d'être artiste, je pense que ça a dû leur poser problème et qu'ils avaient l'impression que je leur échappais. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà. Et donc, du coup, à un moment donné, eh bien, j'arrivais toujours. Plusieurs fois, j'ai voulu arrêter parce que je voulais sauver mon couple, sauver ma famille. Voilà. Et puis, en fait, l'art revenait au galop. Et puis, quelque part, ben voilà, être artiste, et c'est moi. Et on ne peut pas m'amputer de ça. Et donc, il faut voilà, respecter mes choix. Et donc, ben voilà, donc, du coup, ben, je partais. Voilà.
Esteja alerta para as regras dos trens. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece.
And
Donc, quand je suis arrivée aux Beaux-Arts, c'était pas du tout facile, étant donné que pour entrer aux Beaux-Arts, il fallait son bac. Et moi, j'avais pas mon bac, donc j'étais en Belgique, et donc il fallait, ça s'appelait ses humanités, il fallait avoir fini ses humanités. Et moi, comme mes parents m'avaient dit, avant de me dire tu feras ce que tu veux quand tu seras mariée, ils m'avaient dit tu feras ce que tu veux au niveau artistique lorsque tu auras un diplôme. Et donc, du coup, j'avais choisi un axe d'études parce que j'adore les enfants, et j'avais regardé ce qui me serait voilà, le plus vite fait et qui me plairait quand même. Et donc, il y avait des études professionnelles à l'époque en Belgique qui s'appelaient des études de puéricultrice. Et donc, j'ai vite fait mes 3 années de puériculture pour accéder à ce diplôme. Et donc, quand je suis sortie de l'école de puériculture, j'ai dit « ça y est, j'ai mon diplôme, est-ce que je peux rentrer aux Beaux-Arts ?» Et là, c'est là que mes parents ont dit « tu seras d'abord infirmière et sinon, tu te maries et puis tu feras ce que tu voudras ». Donc du coup, c'est comme ça donc, que j'expliquais que je me suis mariée hyper jeune. Et donc du coup, eh bien, j'ai été aux Beaux-Arts quand même parce que j'avais pas mal d'arguments et j'ai su montrer à quel point j'étais déterminée. Et donc j'ai quand même pu rentrer aux Beaux-Arts. Et donc c'était assez étonnant parce que moi j'ai toujours... j'ai toujours eu le cul entre deux chaises, comme on peut dire. C'est-à-dire que je voulais être artiste, mais en même temps, je voulais avoir des enfants. Enfin, j'ai jamais pu dissocier cette vie de femme, de mère, d'artiste, voilà. Et donc, très vite aux Beaux-Arts, eh bien, j'étais enceinte de mon premier enfant. Et je me souviens des profs qui me disaient « Mais Annick, tu vas faire comment maintenant? Tu vas pousser le chevalet avec ton ventre ?» Mais ceci dit... Moi, les Beaux-Arts, ça m'a quand même pas mal aidée parce que ça m'a en fait donné énormément de liberté d'agir. C'est-à-dire que venant du milieu dans lequel je venais, c'est vrai qu'eux, ils aimaient plutôt la peinture académique. Et donc, du coup, aller aux Beaux-Arts, c'était me rendre compte que, eh bien, que quand je faisais des choses complètement délirantes pour ma famille et pour mon entourage... Eux, ils me disaient que c'était super, les profs me disaient « mais c'est excellent » et tout. Alors que ces mêmes choses montrées chez moi, mes parents disaient « mais c'est affligeant, quoi, c'est affligeant, mais qu'est-ce qu'elle nous fait là ?» Je me souviens le jour où je me suis inscrite aux Beaux-Arts, donc j'avais trouvé, parce qu'il fallait donc que je parte de chez moi et tout ça, et donc j'avais trouvé un boulot de puéricultrice, et donc dès que j'ai été dans ce boulot et tout, j'ai dit à la directrice de ce travail que je voulais rentrer aux Beaux-Arts, et elle m'a dit « bon ben vas-y, fonce ». Et donc mes parents ont téléphoné dans ce lieu de travail pour m'avoir au téléphone, et là il y a la directrice qui a dit « mais Annick, mais elle travaille plus ici depuis belle lurette ». Mais où est-elle? Mais elle est aux Beaux-Arts. Et là, ça a été le drame total. Mes parents sont arrivés chez moi comme si j'étais une petite fille. Ils ont sonné, ils sont montés dans l'appartement. J'ai eu l'engueulade de ma vie. Maman qui disait « Mais regarde-la, regarde-la !» À l'époque, j'avais mis une petite chaîne à ma cheville. « Mais regarde-le, regarde-le, regarde-la !» Mais c'est une pute, c'est une pute. Enfin, c'était, voilà, pour eux, vraiment... Ils s'étaient fait un monde, je sais pas, parce qu'ils avaient peut-être vu des films avec des artistes d'une certaine époque qui buvaient, qui se droguaient, tout ça. Et donc, du coup, aux Beaux-Arts, on ne faisait que ça, voilà. Donc, voilà. Mais bon, voilà, ça, c'était pour l'anecdote. Mais ceci dit, moi, ça m'a donné une liberté d'agir, une liberté d'utiliser des tas de médiums différents. Je me souviens que les profs nous disaient « mais vous allez peindre aujourd'hui, mais avec tout sauf de la peinture ». Et donc, je rentrais à la maison, je mélangeais des œufs, de la farine, du sucre, etc. Enfin, des tas de trucs, et je faisais des tableaux avec ça. Enfin, ça m'a vraiment donné une liberté. Et je pense que encore aujourd'hui, que ce soit aussi bien dans mon travail artistique que dans ma décoration de maison, à la limite, je m'interdis rien. Voilà, tout est possible. Voilà. Donc en fait, au niveau de mon travail artistique, c'est vrai qu'il a été chaotique aussi à certains moments. Lorsque j'ai commencé mes premières productions, mes premières expositions, c'était vraiment hallucinant parce qu'en fait, j'ai eu besoin de prouver à un moment donné à mes parents que je pouvais également faire entre guillemets, du beau, du technique. Et donc, la première réelle exposition où j'ai invité toute la famille et tout ça, ça a été une exposition d'aquarelle. Et d'aquarelle, pourquoi ? Parce que l'aquarelle, ça plaisait à tout le monde, c'était doux, etc. Et donc, j'ai fait une exposition d'aquarelle en faisant un reportage de voyage. Donc, j'avais pas mal voyagé avec mon petit carnet de croquis, des dessins, et voilà. Et donc, j'avais des aquarelles de Turquie, enfin, de toutes sortes. Et donc, c'était super marrant parce que mes parents sont arrivés, c'était la première fois qu'ils venaient à un vernissage de leur vie, et maman est arrivée avec un gros bouquet de fleurs. Et lorsqu'elle est rentrée dans le vernissage, elle savait pas quoi faire et elle m'a dit je savais pas s'il fallait apporter quelque chose lorsqu'on rentrait dans un vernissage, alors je t'ai apporté des fleurs. Et c'était super touchant. Et puis ils étaient fiers. Ils étaient super fiers. Et donc ils disaient à tout le monde ah oui, mais Annick, elle a fait les beaux-arts. C'était assez incroyable. Et donc voilà. Et après cette exposition, eh bien, je n'ai plus jamais fait d'aquarelle. Et je suis partie habiter en France, loin de mes parents. Et j'ai commencé réellement à faire ce que j'avais envie au niveau artistique. Voilà. Et donc là, j'ai commencé à exposer en Vendée, à droite, à gauche, voilà. Et à faire, en fait, de la sculpture, plutôt. D'abord, j'ai fait de la peinture. Et très vite, j'ai commencé à mettre des matériaux naturels dans ma peinture. Et puis, petit à petit, je suis partie sur des monochromes. Et je me suis dit, bon, bah, faudrait peut-être mieux que je passe à la sculpture. Si maintenant, tu trouves que ta toile blanche est jolie le matin, faut peut-être que tu arrêtes de peindre. Et donc, du coup, je suis partie sur des sculptures en métal, assez épurées, assez longues, des espèces de grandes colonnes, des espèces de grands boucliers, des plaques de métal extrêmement fines et quelquefois transparentes, vu qu'elles étaient percées de petits trous. Et donc, je les exposais, je les installais dans la nature et puis je les photographiais. Voilà. Et puis, il s'est passé un événement très important dans ma vie, c'est que j'ai perdu le père d'un de mes enfants, qui a disparu en mer. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça a été... En fait, cette personne m'a apporté énormément artistiquement. Parce qu'en fait, par son décès, ça m'a donné une force incroyable et je pense que mon travail s'en est ressenti. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé l'éphémère. Donc je partais, je travaillais sur des immensités de plages, je travaillais dans la montagne, je travaillais beaucoup seule et la trace n'était que la photographie. Et puis un jour, j'ai rencontré une personne qui est venue me remercier d'une installation que j'avais réalisée. Et c'était une personne qui parlait à peine le français, c'était en Tunisie. Et cette personne est venue me dire merci, et elle me faisait signe avec son pouce que c'était super bien et tout. Et en fait, j'avais rempli les fissures d'une falaise avec des eaux de sèche. Et donc de loin, cette personne qui était en mer, en bateau, a vu tout d'un coup ces fissures de falaise qui normalement étaient noires. Tout d'un coup, ces fissures étaient devenues blanches. Et donc, ils ont trouvé ça super étonnant. Et donc, ces marins ont jeté l'ancre et sont venus sur la plage où je travaillais. Et ils m'ont dit, c'est magnifique, c'est super. Enfin, je sais pas, voilà. Ils ont fait griller du poisson, on a mangé ensemble, ils m'ont emmené dans leur famille et tout ça. Et là, tout d'un coup, je me suis dit que c'était peut-être dommage de travailler pour moi toute seule dans ces immensités et de montrer que les photos, qu'il fallait peut-être que j'aille au-devant des gens. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler dans la rue, à travailler dans des paysages urbains, de travailler en fonction d'une histoire, d'un lieu, et de travailler également avec la population. Et je pense que la, Bon, je ne sais pas ce que je cherche, hein. Moi-même, je me pose encore la question. Mais il y a peut-être aussi toute cette histoire familiale derrière, hein. Voilà, et puis peut-être que je veux aussi donner les bâtons pour me faire battre, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'en attendant, maintenant, je travaille beaucoup en lien avec la population. Voilà, et donc voilà.
Yeah.
Au départ, j'ai eu un atelier qui était en Vendée. Et puis, je suis partie habiter à Nantes et j'avais l'impression que sans atelier, c'était impossible, qu'un artiste ne pouvait pas vivre, alors que ce n'est absolument pas vrai. Lorsqu'on est artiste, on crée n'importe où, même dans un minuscule appart, ce qui m'est arrivé aussi, et l'appart était complètement transformé en atelier. Mais mon passage par Nantes, en tous les cas, était important parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Arrivée à Nantes, j'ai eu plus de difficultés que quand j'étais en Vendée. En Vendée, quand je suis arrivée là en tant que Belge, j'ai téléphoné à la DRAC, par exemple, je me souviens toujours, c'était Jacqueline Blanc qui était au téléphone, elle était adorable, et elle m'a dit « je vais venir voir votre atelier et tout ». En fait, je lui ai téléphoné parce que je ne savais pas que la DRAC avait une telle importance et qu'on mettait tellement la DRAC sur un piédestal en France. Et donc, du coup, c'est toute humble et vraiment inconsciente que je lui ai téléphoné. Et je pense que cette simplicité lui a plu. Et donc, du coup, elle est venue voir mon atelier et tout ça. Et quand je suis arrivée à Nantes, eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête et tout. Je ne sais pas, peut-être que j'ai été parano. Mais j'ai trouvé que le milieu artistique était vraiment un panier de crabes. Et donc, au départ, j'ai vraiment essayé d'y rentrer. Et puis, en fait, c'était vachement dur. Quoi, parce que je pense que il y a c'est Louis Ponce qui disait être artiste et déserter, c'est prendre la tangente. Quand on a envie d'être au centre, on est à l'extérieur, en gros, et quand on a envie d'être à l'extérieur, on est au centre, enfin, un truc du genre. Et c'est vrai que je pense que à force de vouloir rentrer dans ce milieu artistique nantais, eh bien, je suis devenue complètement parano. Une exposition, c'était actif-réactif. Et puis, ils avaient fait une sélection d'artistes et puis j'étais pas dedans. Donc, nous, avec une association, on avait fait acteur-réacteur à côté. Et puis, là-dedans, en fait, on sentait que c'était pratiquement que des personnes qui étaient frustrées de ne pas être dans actif-réactif. Et je pense que c'est nul, quoi. À force de vouloir être à côté d'eux et tout ça, on se perd. Et je pense qu'il faut être soi. Et à partir du moment où on soit, et puis on arrive ou on n'arrive pas, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Et donc, en fait, moi, je me souviens, à l'époque, j'avais exposé, en 2000, l'Académie de Libramont en Belgique, où il y a un gros groupement d'artistes énormes. Et là, il y a le directeur qui avait remarqué mon travail et il m'avait dit « Oh là là, mais attends, mais il est super ton boulot et tout ». Enfin, il m'avait super encouragé et tout. Et puis, il m'avait dit « Mais t'habites Nantes, mais t'exposes où et tout ?» Pas dans beaucoup de lieux. Et il m'avait dit « Mais va donc voir Michel Luneau. Michel Luneau, c'est quelqu'un de super bien que j'ai rencontré en Belgique. Il y avait une galerie d'art en Belgique, etc. Donc va le voir ». Et voilà que je vais voir Michel Luneau et je me retrouve face à un monsieur adorable et une femme, Sophia Luneau, adorable, qui m'accueille vraiment à bras ouverts et qui regarde mon boulot et tout. Et puis, enfin, ils étaient très encourageants. Je m'en vais de chez eux, je rentre à la maison, j'explique ça à mon mari et tout. Et puis, il me dit « Mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que tu vas exposer chez les Luneau, mais n'importe quoi et tout ?» Et une semaine après, je recevais un coup de fil des Luneau disant on aimerait bien exposer votre travail. C'est la première fois qu'on expose de la photo, c'est la première fois qu'on expose un travail justement sur de l'éphémère et tout, mais on a vraiment aimé et voilà. Et donc là, ils m'ont aussi prêté leur parc. J'ai fait une super grande installation où j'ai habillé 70 platanes de soie et avec des petits corsages érotiques et vraiment. Pour moi, c'était une très, très belle installation. Enfin, j'ai adoré faire ce travail. Et puis, qu'est-ce que j'apprends ? Qu'en fait, j'avais choisi mon camp. Qu'en fait, quand on habite Nantes, eh bien, où on expose dans certains autres endroits, à l'époque, Zoo Galerie, etc., etc., Mais on fait pas les... on ne peut pas exposer et chez les Luneaux et à Zoo Galerie. On ne peut pas exposer chez les Luneaux et être aimé par la DRAC, enfin, etc., etc. Donc de quoi devenir complètement parano, quoi. Donc du coup, il y a plusieurs personnes qui m'ont conseillé d'enlever les Luneaux de mon CV. Et naturellement, pour moi, il en était absolument pas question, parce que c'était des gens qui m'avaient vraiment accueilli avec beaucoup de chaleur. Et puis que voilà, puis je renie pas, moi, ce que je fais. Et donc voilà, les Luneaux sont toujours dans mon CV. Et puis d'ailleurs, je les embrasse au passage.